9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une heure pour parler d'islam sur Beurre FM le jeudi avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Voilà, vous êtes prêts, vous avez vos textes. Vous êtes au taquet aujourd'hui.
Oui.
Et vous avez un nouveau polo.
Ah oui, il est sympa mon polo, c'est ma femme qui me l'a offert.
Il est magnifique. Je suis heureux et... je vous ai jamais vu aussi beau.
Ah ouais, bah c'est gentil, merci.
Un polo de rugby gris.
Oui. Ah oui. J'imite Philippe, parce que c'est Philippe, ce genre de vêtements, ouais. Ce truc, c'est les polos que Philippe, il met beaucoup.
Bon, voilà.
Il n'en a pas mis un aujourd'hui, il a mis un petit tricot.
Il y a des miettes, mais bon.
C'est de la bonne marque en plus.
Ah voilà, on a une invitée qui est auditrice fidèle de Beurre FM, qui vient assister aux émissions, qui voulait vous rencontrer depuis longtemps. Elle s'appelle Majda, bienvenue Majda.
Bien, merci.
Marhaba avec Arti. Apparemment, elle voulait rencontrer tout le monde, hein, pas que moi.
Elle voulait rencontrer l'équipe, elle voulait rencontrer l'imam, voilà.
Et Philippe Robichon.
Et Fatima Zahra. J'apprécie tout le monde et j'aime beaucoup cette radio.
Voilà, c'est bien de recevoir aussi des auditeurs qui viennent à notre rencontre et qu'on accueille. On leur ouvre les portes. Bon, alors Majda, vous connaissez le principe de l'émission. Ça commence par une question qui fâche. La question qui fâche Imam Abdelali, c'est pourquoi les histoires de jnoun et de possession ne touchent que les musulmans.
Ah oui, effectivement, c'est une superstition qui est très importante chez nous. On ne peut pas se passer d'accuser ces entités qui vivent avec nous au quotidien d'être à l'origine de tous les maux, que les maux M-A-U-X, bien sûr, que peuvent subir les humains quand on n'a aucune explication rationnelle à donner aux problèmes que l'on a autour de soi. Alors, on associe au jnoun les échecs, les maladies, les problèmes psychologiques, psychiatriques. On associe au jnoun les échecs professionnels, les pertes financières, les divorces, la rébellion des enfants. Alors que souvent, et très très souvent, malheureusement, on va dire heureusement, je sais pas, les jnoun n'y est pour rien, le pauvre. C'est simplement une réalité purement rationnelle et qui s'explique par des raisons purement scientifiques, expérimentales, qui n'ont rien à voir avec ces entités-là, qui certes, même si elles existent, n'ont pas du tout de lien avec ce qui nous arrive.
On peut préciser les mots, si vous voulez bien, Imam Abdelali. C'est quoi la différence entre un djinn et un jnoun ?
Alors, non, le djinn, c'est le singulier.
Oui,
c'est
d'accord, donc c'est les jnoun.
Les jnoun, et on dit un jnoun, c'est parce que la prononciation semble un peu plus, va dire...
Plus parlante.
Plus parlante, alors oui, non. Le djinn, c'est le singulier, les jnoun, c'est le pluriel, tout simplement.
D'accord, donc voilà. Quel est leur pouvoir
Être honnête et après avoir fait une recherche assez poussée en la matière sur cette question, je peux dire qu'elles sont extrêmement limitées. Inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Dieu lui-même dans le Coran, il le dit, que la force et la puissance et la capacité de faire du tort du diable ou des démons est faible. Et Dieu parle même du plus fort d'entre eux qui est Shaytan qui est Iblis, la'anatullah alayh, en disant que lui-même déjà est plus fort et plus son kayd, c'est-à-dire sa capacité à nuire, est particulièrement faible. Donc il est clair que il faut arrêter de s'imaginer que ces jnouns là sont capables de faire du tort autour de soi. Néanmoins, on va quand même évoquer les différents avis qui tournent autour de cette question. D'abord, ceux qui considèrent qu'ils n'ont aucun pouvoir, mais aucun. Ça, il n'y en a pas. Tout le monde dit qu'ils ont quelque chose, ils ont une influence. Alors, quel est le degré de cette influence minime que l'on peut avoir chez les savants? C'est de pouvoir imaginer qu'ils ont une capacité de tourmenter, de torturer l'homme par des tourments. Hein, ce qu'on appelle en arabe le wasawis. Comme le prophète, alayhi salat wa salam, quand il faisait des invocations, il disait, ô mon Dieu, je te demande de me protéger des hamazat shayatin. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. C'est un verset du Coran. Donc ça veut dire, oh mon Dieu, Dieu dit à son prophète, dis, je demande protection auprès de Dieu, des hamazat. Alors qu'est-ce que c'est une hamazat? Ce sont ces souffleries démoniaques, ces tentations, ces tourments. C'est-à-dire que le shaitan est capable de venir nous tourmenter, de nous inciter à commettre le mal, mais de manière très furtive. C'est pour ça que le Coran l'appelle le khannas. En arabe, ça veut dire le furtif. C'est-à-dire qu'il est... tourmente l'esprit de l'individu sans même que celui-ci s'en rende compte. Comme le moustique. il te pique, il te pompe, et la douleur, elle vient qu'après. C'est un peu ça, Shaitan. Shaitan, il fait quoi? Il te vient, il te tord, comme un moustique, qui te pique, qui te pompe ton sang. Et après, c'est quand seulement il s'en va le moustique et qu'il est enfin parce qu'il t'a anesthésié la partie qu'il a piquée.
C'est pas pour les moustiques indonésiens, parce que le moustique indonésien, tu l'entends.
Tu le sens tout de suite.
Tu l'entends arriver d'abord.
Tu l'entends arriver déjà. C'est des libellules, c'est pas, ou des oiseaux, c'est ouais, plus des
moustiques. Il fait bzzz en indonésien.
Non, mais on va dire celui qui est en France, Philippe. Enfin, gardons nos références françaises. Un petit moustique en France, il est très discret, il est furtif comme Shaitan. Donc Shaitan, il a la particularité d'être extrêmement discret, tellement discret qu'il arrive à faire en sorte de te tourmenter sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est justement ça où est-ce que va jouer le rôle de la prière et que le musulman qui va demander protection auprès du Seigneur qui entend et qui sait. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Voilà les différentes capacités du Shaitan résumées dans cette parole prophétique qui dit: je demande protection auprès du Dieu qui entend et qui est omniscient, c'est-à-dire qui sait tout, السميع العليم, من الشيطان, de ce diable, de ce Satan, رجيم, qui est maudit, qui est lapidé, رجيم يعني qui يرجموه الملائكة, من همزه, de tout ce qui peut être dans ses capacités de hams, c'est-à-dire de tourmenter, ou anafrihi, c'est-à-dire de soufflerie, il va venir te souffler le nafr, c'est simplement la capacité de Shaitan à susciter en toi des émotions de mauvaises, comme la tristesse ou la colère. Là, c'est spécifiquement, on va parler de nafr. Et le nafth, on va parler plutôt de situations de désespoir. Où est-ce que il va casser ton moral, tes capacités, il va provoquer chez toi une démoralisée, il va casser ton envie, ton enthousiasme. Donc c'est trois choses là que peut faire Shaitan et rien d'autre. Il n'est pas capable de venir te posséder comme il le dit certains, de rentrer dans ton corps et de manipuler comme une marionnette les individus. Ça c'est totalement faux. La seule chose que l'on a et qui est authentique en la matière, c'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari, qui parle que au moment où est-ce que chaque homme naît, un humain, c'est-à-dire les êtres humains, hommes et femmes, bien sûr, ma min wulidun yulidu Allahu anhu anna an-nabiy illa wash-shaytan yamassuhu hina yulad, sans que il y ait un démon qui vienne le toucher, c'est-à-dire le piquer d'une certaine manière au moment où est-ce qu'il naît. C'est pour cela même qu'il pleure. C'est la raison pourquoi il crie, il pleure cet enfant-là. Illa Maryama wabnaha, sauf Marie, la Sainte Marie, et Jésus-Christ. On vit cette période justement où est-ce qu'on commémore ce personnage qui est Jésus-Christ, notamment chez nos frères chrétiens. Eh bien, c'est encore une spécificité que Dieu a accordée à Marie et à son fils. Tout simplement parce que sa mère, Marie, a fait une invocation que Dieu lui a exaucée. Il lui dit « Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytan ar-rajim » parce qu'elle a imploré Allah Azza wa Jalla d'être préservée de ce hamz, de cette capacité du shaitan à toucher sa famille et notamment sa fille Maryam et son petit-fils Isa ibn Maryam alayhim wa ala nabiyyina afdalu salati wa azka taslim. Donc il est très important, Philippe, de savoir que il existe bien sûr cette capacité chez le shaitan de faire ce genre de choses. Je vais citer encore un autre exemple que Uthman ibn Abi al-As nous rapporte, qu'il est venu voir le prophète un jour, il lui a dit « Le shaitan est venu entraver la concrétisation de ma prière. » C'est-à-dire qu'il lui dit, en gros, il se plaint que moi, à chaque fois que je rentre dans ma prière, je n'arrive pas à prier et que le shaitan vient entraver ma prière, vient me perturber dans ma prière.
Donc, impossible de se concentrer et de consacrer à la prière.
Donc, il dit, « Inna shaitan qad hala bayni wa bayna salati wa qiraati yalbisuha alayya. » فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الشيطان ذاك الشيطان. Il dit pas que c'est le diable, il dit c'est un diable, un diable à l'indéfini, c'est-à-dire nakira. Et il dit يقال له خنزب. Il porte un nom, déjà son nom il est pas beau, hein. Il s'appelle خنزب. Je répète, son nom il s'appelle خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. Quand tu ressens sa présence, dis simplement أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et ensuite, tu poussillonnes sur ta gauche. ثم انفث على يسارك ثلاثا. ثم فعل tu positionnes trois fois en disant A'oudou billahi minash shaitanir rajim trois fois et tu arrives parce que tu es. Il n'est plus furtif. En fin de compte, le shaitan tourmente l'homme en, tout en étant furtif, c'est-à-dire sans que tu t'en rendes compte. Mm-hmm. Et c'est grâce à la lumière de la prière que cet homme-là, ce compagnon qui s'appelle Abu al-As, radiallahu anhu, dit qu'il est conscient de la présence du shaitan. Là, il est conscient. C'est-à-dire que le shaitan, à ce moment-là, n'est plus furtif. Il tourmente tout en étant ressenti par la personne qui est tourmentée. Voilà. Et c'est ça la force de la prière. C'est qu'elle est une lumière qui fait apparaître le furtif. Il ne peut plus se cacher. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier et de nous aider par la prière. Il a dit, « Nusta'inu bis-sabri was-salah ». Hein, et faites-vous aider par la patience et la prière. Sachez qu'elle est particulièrement importante, si ce n'est que pour ceux qui sont véritablement concentrés dans leur prière. Donc, grâce à la prière, eh bien, le croyant est capable de dévoiler le caractère furtif du shaitan, et il est capable de le combattre à ce moment-là, puisqu'il le ressent. Et c'est ça qui est la force de la prière et du croyant. Et finalement, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que shaitan, il n'a aucun pouvoir. Il le dit, Dieu, dans le Coran. Quand il parle à la place de Shaitan, alors que les gens sont jetés dans l'enfer, les gens vont dire, « Ya Rabbi, c'est à cause de Shaitan qu'on est là. C'est lui qui nous a détournés du droit chemin. Fais-le punir, punis-le lui aussi. » Puisque c'est lui qui nous a. Et là, qu'est-ce qu'il va dire Shaitan? Il dit, « وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. » Hein? Dira le Shaitan à ce moment-là, vous saviez très bien que je n'avais aucun pouvoir sur votre corps et sur votre pouvoir de décider. Seulement, mon seul pouvoir, c'était de vous appeler, de vous convoiter, de vous inciter à commettre le mal, et vous m'avez répondu favorablement. Fastajabtumli, vous avez répondu à moi. Falatulumuni, ne me faites pas de reproches en ce jour, mais reprochez-vous vous-même votre tort. Donc finalement, l'homme est libre, il a le libre arbitre total.
Bah,
il
n'est
pas question de dire que Shaitan a une capacité de faire du mal.
Est-ce que ça veut dire que le fait de répondre à son appel, c'est un signe de faiblesse?
Bah oui, bien sûr, c'est un signe de faiblesse, c'est un manque de personnalité, c'est comme quand quelqu'un se laisse embobiner par des démons humains. Parce qu'attention, les démons ne sont pas que genoux. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que des genoux mauvais. Il y a aussi beaucoup plus d'humains mauvais qui sont des démons. Des shayatin al-jinn wal-ins. Al-ins achad wa a'zam wa akbar min al-jinn.
Oui, mais si j'en reviens à ce que vous disiez que leur pouvoir est exagéré. Il n'est pas si fort que ça, leur pouvoir.
Oui, tout à fait.
Donc c'est comme les démons humains. Les démons humains, on peut leur résister aussi.
Même, supposons ils en avaient un. S'ils avaient, supposons, cette capacité de nous manipuler, par exemple, et de nous faire prendre une arme et de tuer avec, et que c'est le genou lui-même qui vient dans notre corps et qui nous oblige à tuer ou à faire du mal à quelqu'un. Hein. Imaginons. Est-ce que Dieu nous entraînerait rigueur? Est-ce que l'objectif de Shaitan, c'est de te faire du mal alors qu'il te possède, ou est-ce que c'est de réussir à te convaincre pour faire le mal? Il sait très bien que s'il te possède de force, et qu'il te fait faire les choses sous la contrainte de ses capacités démoniaques à te faire le mal, par la force, par la contrainte, il sait que tu ne seras pas puni pour ça. Rafi al-qalam wa antalat wa anil mukrah, il dit un des trois, où Dieu dit qu'il ne jugera pas et ne sanctionnera pas celui qui est sous la contrainte. Une personne sous la contrainte n'est pas jugée par Dieu. Donc il sait, Shaitan, que ça ne sert à rien de faire ça. Ce qu'il faut impérativement, c'est réussir à te convaincre, toi, de choisir de faire le mal. Et c'est pour cela que, eh bien, il faut demander protection auprès de Dieu de ces tourments démoniaques qui peuvent nous inciter à faire le mal.
Et comment on demande protection?
Eh bien, on dit la phrase principale, « A'udhu billahi minash shaitan rajim ». Et puis, il y a plein d'autres, bien sûr. Il y a « Ayatul Kursi », il y a la « Fatiha », qui est le « Waqiya », la protectrice, « Fatiha », le « Mu'awdhatayn », « Amukhti al-Karima barakallahu fik », le « Mu'awdhatayn », qui sont les deux dernières sourates du Coran qui protègent de « Wasawasi shaitan ».
Bien, dans un instant, Warda, nous allons évoquer une profession, hein, puisque chaque semaine, l'imam Abdelali Mahmoud se penche sur une profession au regard de l'islam. Et cette semaine, ce sont les infirmiers qui sont avec nous à votre spiritualité.
Et
infirmières, voilà, jusqu'à 10h sur Beurre FM.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et une heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun, 9h-10h. C'est le rendez-vous que l'imam Abdelali vous donne tous les jeudis. Si vous n'avez pas, vous n'arrivez pas à poser vos questions en direct à l'antenne sur Beurre FM, vous n'arrivez pas à passer le standard ou que vous ne souhaitiez pas passer en direct, vous pouvez toujours appeler l'imam Abdelali Mamoun à son téléphone. Bien sûr, j'ai compris qu'il ne faut pas lui demander un renseignement téléphonique ni une adresse de boucherie, mais pour le reste, pour toutes les questions religieuses, et si vous souhaitez partir à l'Omra avec lui...
Tout à fait, le 06 29 25 35 00, je répète le 06 29 25 35 00. Il y a aussi une possibilité, je voudrais préciser, concernant la Omra, parce que je fais un combiné par la Turquie, comme tu sais Philippe, qui va durer donc 13 jours, 3 jours en Turquie, 4 jours
au
Médine.
Au mois de février, oui.
Au mois de février. Et donc c'est du 23 au 9, du 23 au 9 février. Puisqu'on
du
23 arrive...
février au 9 mars.
Au 9 mars, excuse-moi, autant pour moi. Oui, effectivement, au 9 mars, effectivement. On arrive en France le matin du 9 mars. Hein. Donc c'est confirmé, les dates sont maintenant définitives. Mais il y a aussi la possibilité de ne pas passer par la Turquie pour ceux qui ont déjà fait la Turquie et qui peuvent venir me rejoindre le 26. C'est-à-dire, 3 jours après, ils viennent me rejoindre.
Ah, directement,
le
ouais,
26.
Ouais.
Je les récupère à l'aéroport de Médine et je les guide tout au long du voyage de Médine et Mecca, etc. Voilà, ça aussi, c'est une possibilité que je propose aux pèlerins qui souhaitent limiter leur parcours à une dizaine de jours seulement. Et bien sûr, c'est moins cher. Hein. Bien sûr, pour ceux aussi, pour le tarif, c'est bien sûr moins cher. Il y a aussi la possibilité d'organiser la Omra par délégation. Ça aussi, je propose tous les ans, chaque fois que je vais à la Omra ou au Hajj, d'organiser la Omra ou le Hajj par délégation pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire pour une personne décédée, une sadaqa que vous voulez faire pour votre père, votre mère, un proche qui est décédé, qui n'a pas fait la Omra dans sa vie, qui n'a pas fait le Hajj dans sa vie, et vous voulez que ce lui soit compté un Hajj ou une Omra, eh bien là aussi, vous pouvez m'appeler, on peut organiser ça au 06 29 25 35 00, 06 29 25 35 00. Voilà,
alors,
c'est dit.
On va aborder la profession d'infirmière et d'infirmier, Imam Abdelali. Mais Majda, vous avez une question concernant le précédent sujet sur les genounes.
Oui, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que comment on fait-on pour détourner l'attention du diable et du shaitan, ce qu'on appelle nous shaitan. Parce que c'est vrai que on l'a au quotidien, il nous détourne des bonnes choses voilà, par exemple, on veut faire quelque chose de bien, mais il arrive à nous convaincre de ne pas le faire finalement.
Eh bien, c'est le fait de répéter ces versets du Coran. Dieu dit à son prophète, il dit « Waqul, Arab, waqul, ayman ». À qui il dit « qul » ?« Qul » ça veut dire « dit ». À qui il s'adresse ? Non, il parle à son prophète.
D'accord.
Il parle à son prophète et à travers son prophète, il parle à sa communauté, à la communauté du prophète. Parce que s'il avait parlé à plusieurs personnes, il aurait dit « Qulo ». Il aurait dit « Qulo » au pluriel. Mais là, Dieu parle à son prophète qui est le modèle des musulmans. Donc, à travers le prophète Mohammed, il s'adresse à nous-mêmes. Donc, tu n'avais pas tort. Et il dit quoi ?« Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin » « Oh mon Dieu, je demande protection auprès de toi de toutes les souffleries, de toutes les tentations, de tous les tourments » émanant des shayatin, le pluriel de shaytan, c'est shayatin, Satan ou démon. Et il dit ensuite, wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Et je te demande protection du fait qu'ils soient présents, c'est-à-dire d'empêcher leur présence. Puisque dès qu'ils sont présents, c'est pour faire du mal forcément. Donc, non seulement on demande protection de ce qu'ils peuvent nous faire, mais même d'être présents. On veut pas d'eux. Wa an yahdurun ma brinahum jga yahdurum ana. On ne veut même pas leur présence parmi nous. Donc, c'est très important. A'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. L'aïe Qur'aniya. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. C'est le verset coranique. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'u al-'alim. Hein, fasta'idh billah. Donc là encore la confirmation d'Allah Azza wa Jalla qui nous dit de demander protection auprès d'Allah Azza wa Jalla du shaytan, de chercher protection, de chercher refuge auprès de Dieu contre les souffleries démoniaques. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Moi tous les matins ma femme dit à ses enfants et en mettant la main sur leur tête et il leur dit même de le répéter, hein. A'udhu bil kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma. Hein?
Ah oui, j'ai aussi doigt. Ouais, alors, je le dis à ma fille tous les matins avant de sortir, ça la protège.
Ah, c'est
il y a
très,
un douet.
A'oudou bi kalimati Allah tamma min kulli shaytanin wa hama wa min kulli 'aynin lamma, parce qu'il y a aussi ce mauvais œil. C'est très important, ça permet effectivement de contribuer à ce que vos enfants ne soient pas touchés par les souffleries démoniaques. Mais je répète, ils ne peuvent pas nous faire du mal directement. Ce sont des créatures que Dieu a créées de feu. Ils sont extrêmement latif, comme on dit en français, fin.
Fin,
c'est-à-dire que ils ne sont pas véritablement matériels. Donc, ils n'ont pas de capacité rationnelle de nous faire du tort. Ils ne peuvent pas nous donner des coups ou nous faire du mal. Les chayatins n'ont pas ce moyen-là. Mais ils peuvent agir sur notre subconscient, sur notre notre état psychologique. Et c'est surtout à ce moment-là, ou surtout quand on est faible et fragile, qu'il agit. Et surtout quand on est triste. C'est pour cela qu'il faut éviter d'être triste et de se mettre dans des situations de tristesse.
Et c'est valable de dire ce verset-là pendant la prière, tout le temps et tout.
On peut le dire à tout moment. Parce qu'effectivement, quand je parlais tout à l'heure de la prière, vous savez que Omar al-Khattab, quand il égarait quelque chose, quand il avait perdu quelque chose, et il cherche, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Eh bien, il dit, je vais rentrer dans la prière. Il fait deux rak'at, il fait deux prières. Et pendant la prière, il se rappelle. Et pourquoi? Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être Dieu qui l'a illuminé. Non, c'est pas le shaitan, c'est pas Dieu, c'est le shaitan. Le shaitan, il va utiliser tous les moyens pour te détourner de ta prière. Y compris te faire rappeler des choses que tu as égarées. Et parce que lui sait où tu as égaré ce que tu as égaré. Donc, shaitan va venir pour te perturber. Hey, tu sais, ton truc que tu es en train de chercher depuis tout à l'heure, il est à tel endroit.
Pour
que lui, il aura gagné ta prière. Peut-être toi, tu auras récupéré ton bien, mais tu auras perdu ta prière. Et tant pis, Omar, il dit, c'est pas grave, j'en ferai d'autres. Ou là, je demanderai protection à Dieu. Et donc, effectivement, la prière est opportun pour justement parfois retrouver ce que nous est égaré.
Bon, on pourrait passer l'émission complète sur le sujet, mais moi j'aimerais qu'on revienne, Imam Abdelali, à nos infirmières et à nos infirmiers qui sont nombreux d'ailleurs à nous écouter. Quelles sont les règles à respecter pour justement ceux qui ont épousé cette profession?
D'abord, il faut savoir que quand on décide d'avoir comme fonction, comme profession, le métier d'infirmier ou d'infirmière, voire même on peut aller en extrapolant cette activité aux aides-soignants, on peut parler d'aides-soignants aussi, eh bien, il faut savoir que c'est un dépôt. C'est-à-dire que on s'engage et on sait, d'abord, on prend conscience qu'il nous a été confié la vie et la santé d'autrui, des autres. Et c'est ça qui est très important, c'est de prendre en compte la gravité de ce dépôt-là, cette amana que Dieu nous a confié. Vous avez entre les mains, en vos mains, la vie d'une personne. Quand vous allez le piquer avec un médicament, avec une piqûre, une seringue, eh bien, vous savez que cette seringue-là, c'est vous qui décidez de la dose, du contenu, si vous allez y mettre une bulle d'air. Une bulle d'air, vous savez, dans une seringue, peut provoquer un infarctus et la mort immédiate de la personne. Une erreur médicale peut provoquer la mort des personnes concernées. Et combien y a-t-il eu d'erreurs médicales en la matière? Philippe, tu le sais mieux que personne. Donc, Dieu dans le Coran, il est clair, il dit, celui qui donne la vie, c'est comme si qui donne la vie à toute l'humanité. Ça, c'est pour montrer le côté extraordinaire et combien Dieu récompense le travail des infirmiers parce qu'ils donnent la vie. Ils guérissent les gens qui vont mourir. Donc, ce travail-là, qui est un travail d'une forme de médecine, qui est beaucoup plus légère que celle du médecin, certes, et beaucoup moins responsable, néanmoins, c'est, ils sont dans l'exécution de la décision prise par le médecin. L'infirmière exécute les ordres et les injonctions venant du médecin, qui lui a encore une connaissance plus poussée pour savoir quel remède on doit inoculer le patient. Donc c'est une lourde responsabilité. Par contre, il dit quoi Dieu dans le Coran? Dans le même verset du Coran, il dit par contre celui qui prive la vie, qui enlève la vie. Hein, eh bien, c'est comme si qu'il avait enlevé la vie de toute l'humanité. Donc c'est très très grave que de prendre à la légère cette activité professionnelle qui est lourde de conséquences. Donc pour cela, il faut s'assurer, Philippe, d'avoir, pour exercer ce métier, avoir les bonnes connaissances. Donc, parce qu'on ne peut pas jouer avec la vie des autres simplement par ignorance, je vais tester, je vais... ou expérimenter, etc. Hein, il faut aussi avoir de l'expérience. L'expérience, on l'a parce que l'on constate, parce que l'on voit avec des collègues qui ont déjà le métier en main et qui connaissent déjà le travail, on ne fait que exécuter ce qui a déjà été expérimenté. Et il ne s'agit pas de prendre des risques, de dire que je vais tester et prendre les gens comme des cobayes. On ne peut pas, quand on est infirmier, se jouer de la vie des gens et les utiliser. Ben, on va essayer de voir, on va essayer de faire ça, peut-être ça va marcher. Non, on ne peut agir que seulement par expérimentation rationnelle et avérée et vérifiée par l'ordre des médecins et par la médecine prouvée. Une troisième caractéristique importante que doit avoir l'infirmier et tous ceux finalement qui ont cette activité de médicale, c'est avoir de la compassion. C'est très important avoir de la compassion et du respect et respecter l'état d'émotion et les états psychologiques du malade. Hein, même si le malade crie, s'énerve, vous insulte parce qu'il croit que c'est vous qui êtes à l'origine du mal, vous devez accepter, prendre sur vous, avoir de la compassion, parce que s'il est dans cet état-là, c'est parce qu'il souffre, parce qu'il est très mal. Il est dans un état de détresse totale et qui est donc d'une vulnérabilité extraordinaire. Et là, vous avez bien sûr le devoir de faire preuve de compassion et d'empathie. Aussi important chez le médecin, chez l'infirmier, chez l'aide-soignante, l'égalité de traitement. On ne peut pas dire, voilà, celui-là, c'est mon pote, je vais m'occuper de lui avant les autres. Ou celui-là, il est blanc, ou celui-là, il est noir, ou celui-là, il est asiatique, ou celui-là, c'est le fils d'un prince, ou c'est le fils d'un ministre, donc je vais m'occuper de lui avant les autres. On ne peut pas parler comme ça en médecine. Le médecin, et ça, malheureusement, souvent, on ne s'est pas respecté. Hein, c'est souvent les riches qui se payent les soins médicaux les plus poussés, les plus soigneux, les plus appropriés, alors que parfois, les pauvres, eux, ne sont pas traités de la même manière.
Il y a aussi les patients qui sont recommandés.
Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Il n'est pas question qu'on recommande un malade par rapport à un autre malade.
Bah ouais, et qu'on fasse passer
dans la file d'attente un malade parce que il est le fils d'un tel ou parce que c'est le fils de mon copain, etc.
On appelle ça du piston.
Eh bien, c'est dans le piston dans le domaine médical. Pour moi, c'est immoral. Il est immoral.
C'est immoral, mais ça existe et je peux vous assurer que les passe-droits existent beaucoup.
Ils vont pas s'arrêter un jour, hein, ça c'est clair.
Comment?
Ils font partie de notre vie, hein. Ils vont pas s'arrêter un jour. D'utiliser le piston et.
Eh bien, il faut impérativement combattre ces comportements immoraux qu'il peut y avoir dans nos pays d'origine. C'est beaucoup moins pratiqué dans le monde occidental, heureusement, parce qu'ils ont, c'est vrai, plus de moyens. Ils ont plus de conscience aussi dans leur métier professionnel. Et parce que ils n'ont pas cette culture du défavoritisme ou du traitement inégalitaire des individus chez nous. D'abord, on t'kellef b'sahbi, t'kellef b'ladak b'l'ma'rifa, ou hada. C'est totalement inadmissible. Et on appelle ça un acte que l'on accomplit fi sabilillah. Ça n'est pas fi sabilillah. Ce n'est pas dans le sentier de Dieu, ça n'est pas plaire à Dieu que de se comporter en disant, je vais m'occuper d'abord de mon copain, fi sabilillah. Non. Dans la file d'attente, il n'est pas le premier, il n'est pas celui que tu dois traiter en premier, donc il doit respecter l'ordre d'arrivée des malades, et il n'est pas question donc de laisser d'autres malades souffrir et être dans la douleur et ou autre, ou ne pas être pris en charge, ou par exemple dans le don d'organes, par exemple, là aussi.
Les transplantations
d'organes, ou est-ce que certains sont pistonnés par rapport à d'autres parce qu'ils ont payé plus cher, parce qu'ils sont les fils des copains, etc., etc. Donc c'est très important, cette déontologie médicale qui consiste à mettre sur un même pied d'égalité tous les malades, quelles que soient leurs origines, quels que soient leurs moyens, quel que soit le lien qu'il y a entre vous et le malade. Et ça, malheureusement, souvent, le corps médical ne respecte pas cette règle-là. Et enfin, dernière recommandation que je donnerais à ce corps de métier qu'on appelle la médecine, mais surtout les infirmiers et les infirmières, c'est le respect de la dignité de l'individu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de se moquer de son corps ou de dévoiler son corps ou d'exhiber son corps alors que lui est vulnérable et qu'à ce moment-là, ou d'aller raconter, par exemple, de dévoiler un secret médical. Ça aussi, c'est une atteinte à la dignité de la personne. Il est totalement inadmissible et c'est une atteinte même à toute forme de déontologie médicale dans ce corps, de se comporter de telle manière qui est bien entendu un comportement très immoral.
Bien, la plus grande sourate du Coran, c'est la...
Sourate al-Baqara, bien sûr.
Voilà, et bien justement, tout à l'heure, vous allez nous expliquer, Imam Abdelali, l'histoire de la révélation.
Alors, ben non, je me suis trompé, Philippe.
Ah bah, vous êtes bien. Ah, bravo.
Bravo.
J'ai révisé mon verset 181 de la sourate 2,
la sourate 3.
Bon, bah c'est pas
c'est
très grave.
C'est sourate Al-Imran.
La famille d'Imran.
Vous savez pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à oublier qu'il y a la Fatiha au début du Coran et qu'on souvent on parle de sourate Al-Baqara comme étant
celle qui ouvre le Coran.
Alors que non, c'est la Fatiha, la première sourate. Ensuite, sourate Al-Baqara qui est la deuxième. Et ensuite, la troisième sourate, qui, il y a 200 versets, voilà, c'est sourate Al-Imran. Donc c'est
famille,
de celle-là que l'on va
La famille d'Imran, et voilà. C'est donc le verset 181 que vous nous expliquez tout à l'heure.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'imam Abdelali Mamoun qui vous donne rendez-vous tous les jeudis, 9h-10h sur Beurre FM. L'explication d'un verset chaque semaine, donc on l'a vu, c'est la sourate 3 et le verset 181 que vous avez décidé, Imam Abdelali, de nous expliquer.
Alors effectivement, il y a une erreur de Philippe donc, que tu as reçue dans ton document. C'est pas seulement c'est l'erreur mais de la sourate 2, c'est même le verset lui-même qui est écrit en français ne correspond pas à celui qui est en arabe.
Pourtant, il correspondait très bien celui que vous m'avez envoyé avec la thématique de l'émission, donc je me suis dit que c'était parfait.
Ouais, non, j'ai choisi d'évoquer un autre sujet.
Bon.
Où Dieu dans le Coran dit "Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya." Dieu a entendu celui qui a dit que certes Dieu est pauvre et que eux étaient riches. C'est-à-dire que ces gens qui prétendaient ça se disaient d'eux riches. Et ils disaient que Dieu était pauvre. Et il dit, sanaktubu ma qalu. Nous écrirons et nous transcriserons, nous allons enregistrer ce qu'ils ont dit. Wa qatlahum al-anbiya, ainsi que leur assassinat des prophètes. Bighayri haqq, sans droit. Et nous leur dirons goûter au châtiment douloureux. Sourate Ali Imran, verset 181. Donc ce verset-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous parle de ceux qui ont dit que Dieu... Qui a osé déclarer cette phrase-là? Eh bien, on dit que c'est un prêtre de la communauté judaïque de l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, quand Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu est rentré dans une de leurs institutions d'enseignement et d'apprentissage de la religion judaïque, a entendu l'un d'entre eux tenir ces propos-là. Il s'appelle Finhas. Son nom c'est Finhas. Ou Finas, on dit Finas en français. Mais c'est Finhas, ce prêtre, qui a dit, mais finalement, Dieu n'est pas si riche que ça. Dieu est pauvre et nous sommes riches. Nous avons plus de moyens que Dieu. Et quand Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, a entendu cet homme prononcer ces propos blasphématoires, puisque c'est considéré comme étant blasphème, que d'accuser Dieu de pauvreté, et de dire que nous sommes riches et donc nous n'avons pas besoin de l'implorer et de l'invoquer, eh bien, il lui a dit, est-ce que c'est toi qui as osé dire ça? Je t'ai entendu. Il a dit, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai dit ça. Et là, Abu Bakr s'est emporté. Et il a commencé à lui taper dessus pour avoir blasphémé. Alors cet homme-là qui n'acceptait pas, alors qu'ils avaient signé un pacte de paix avec les juifs, avec les tribus juives de Médine, eh bien cet homme-là n'a pas apprécié. Donc il est venu s'en plaindre auprès du prophète Mohammed sallam. Et donc le prophète convoque Abu Bakr et lui dit, ya Abu Bakr, est-ce que c'est vrai que c'est toi qui a donc frappé, mis la main, c'est-à-dire agressé Finhas? Et là il lui dit oui, c'est moi, je reconnais que j'ai fait ça. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, parce qu'il a osé dire que Dieu était pauvre et que lui était riche. Inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Et là le prophète dit à Finhas, est-ce que c'est vrai tu as dit ça? Il a dit non, 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 jamais de la vie. Comment pourrais-je oser dire ce genre de propos blasphématoires? Bien sûr que non. Dieu le Tout-Puissant, Dieu, c'est lui qui est détenteur de toutes les richesses. Lillahi mulku as-samawati wal-ard, wa lillahi khaza'inu as-samawati wal-ard. Dieu détient toutes les richesses du monde et de la terre, des cieux et de la terre. Donc comment pourrais-je dire que Dieu est pauvre alors que c'est lui qui détient toutes les richesses de l'univers? Le prophète, il dit à Abou Bakr, peut-être que t'as mal entendu, peut-être que c'est pas lui qui parlait, que c'est peut-être un de ses élèves où il posait la question. Il a dit, ya Rasulallah, je te dis, je te promets, il a dit ça. Et là, Dieu a révélé. Laqad sami'a Allah, Dieu a entendu. Il vient soutenir Abou Bakr et lui donner raison. Laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu. Non seulement je témoigne, moi Dieu, au-dessus des sept cieux, que j'ai entendu cet homme prononcer ses propos blasphématoires, mais qu'il sache que je vais les enregistrer et qu'il en paiera le prix fort le jour de la résurrection. Voilà ce que Dieu a dit à Finhas à ce moment-là. Et donc, d'une certaine manière, le prophète n'aurait rien dit, donc n'aurait pas sanctionné Abou Bakr. Mais Dieu ne va pas apprécier le comportement d'Abou Bakr Siddiq. Et dans le verset 186 qui va suivre, Dieu dit dans la même sourate, certes, 186, hein, certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. En parlant de ce rabbin, de ce prêtre judaïque ou juif. Et vous entendrez de leur part des propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et patient et pieux, voilà bien la meilleure résolution et le meilleur comportement à avoir. Voilà ce que Dieu fa inna dhalika min azm al umur. Bala in tattaqu wa tasbiru fa inna dhalika min azm al umur. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Il nous dit que il n'est pas question, ya Abu Bakr, que tu puisses lever la main sur même s'il a insulté Dieu. Tu ne peux pas lever la main et porter atteinte à la liberté d'expression de tout un chacun. Et que si même Dieu lui-même te dit ne viens pas me défendre, je suis assez fort. Anna, vous dites à chaque prière Allahu Akbar. Si vous dites à chaque prière je suis Dieu le grand, le puissant, al kabir, al qawi, al muta'al, al jabbar, al mutakabbir, lish njaddi fa'aliya, qui t'a demandé de venir me défendre et défendre ma cause? Je suis assez grand et puissant, comme tu le dis, à chaque fois que tu oses commettre ces actes criminels que sont par exemple des actes terroristes contre des personnes qui auraient blasphémé, ou tu aurais agressé une personne parce qu'elle a tenu des propos blasphématoires, eh bien, non. Tu ne peux pas dire Allahu Akbar et venir me défendre alors qu'Allah est Akbar. Justement, parce que Allah est Akbar, il n'a pas besoin que tu viennes défendre ses propos ou ses blasphématoires à son encontre qui sont tenus par ses ennemis ou par ces gens qui se détournent de lui. Tu dois laisser Dieu intervenir. C'est lui, il est suffisamment puissant pour leur faire subir tout ce qu'il veut. Mais au contraire, il continue à les combler de ses richesses, de ses bienfaits, de sa santé et de la vie. Il continue à leur accorder tout ça. Yumhil wa la yuhmil. Il leur donne du temps. Il leur dit, Balak, demain, il va se repentir. Peut-être Dieu, dans sa grande miséricorde, est en train de donner le temps aux gens. Repentissez-vous. Revenez à la raison. Revenez sur le droit chemin. Il leur donne le temps parce que Dieu n'est pas comme nous. Si Dieu avait notre état d'esprit, eh bien, nous aurions détruit toutes les cieux et la terre parce que nous sommes très intolérants et dotés de très peu de miséricorde. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, a dit que moi, je donnerai du temps à ces personnes-là plus tard de reconnaître leurs fautes, de se repentir et de demander pardon pour les propos blasphématoires qu'ils auraient pu tenir.
Bien, Imam Abdelali, des questions sur le mariage, Majda?
Ah oui, j'ai des questions sur le mariage. C'est le sujet qui m'intéresse.
Alors, profitez de l'imam qui va y répondre.
Oui, en fait, ma question, moi, c'est que comme j'ai souffert, j'ai fait deux mariages et deux divorces, du coup, je ne peux plus songer à me marier avec un arabe. Donc, ma seule problématique aujourd'hui, c'est que je cherche un Français qui est converti.
Il y a les auditeurs, il y a des oreilles qui se déploient là.
J'arrive plus à vivre avec la mentalité des Arabes au jour d'aujourd'hui. Et je n'en peux plus, j'arrive plus. Donc, ça me dépasse en fait. C'est que.
Et Majda, je dois dire que moi, c'est un discours que j'ai entendu déjà plusieurs fois.
Hein. Oui, voilà, mais moi, ça me touche aujourd'hui parce que je suis dans la recherche pure et dure. Et ma problématique, c'est que je veux un Français qui est converti. Et avec les valeurs de l'islam, mais avec la mentalité de française, quoi. Avec la culture de France.
C'est-à-dire que vous
pensez... C'est-à-dire la religion, je la rejette pas, au contraire, je la cherche.
Vous pensez qu'il existe, un cliché qui est vrai chez les Arabes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont pas honnêtes, qui sont pas intègres.
Mais ils sont hypocrites. C'est un peu généraliser
comme ça.
Je suis algérienne, j'ai vécu deux fois avec des Algériens.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est deux fois, ça veut dire que tous les millions d'hommes...
Je généralise pas parce que j'en connais des Arabes, hein, en général, qui sont bien et qui vivent bien avec leurs femmes. Mais c'est une minorité. Mais moi, par malchance, j'arrive pas à tomber sur cette minorité-là.
Et vous pensez que chez les Français,
attendez, parce que,
non, il y aurait une majorité de gens bien.
Imam Abdelali, Majda nous parle de son expérience,
voilà,
de ce qu'elle a constaté et observé.
Mais je pose des questions, moi, je ne viens pas contredire ce qu'elle a dit.
J'ai vécu quand même 11 ans avec la même mentalité. Et moi, j'en peux plus. Le problème, c'est que j'arrive plus à accepter cette mentalité aujourd'hui. Mmh. Même s'il y a une personne, un Arabe, qui m'accepte aujourd'hui tel que je suis, mais au moins, moindre petit problème, c'est moi qui pars. C'est-à-dire que je ne tolère plus maintenant.
D'accord.
Et c'est pour ça que je cherche ce Français avec la culture française, mais avec un minimum de religion. Je n'accepte pas de laisser tomber ma religion. Ça, c'est hors de question. Je préfère rester célibataire toute ma vie que d'accepter de laisser tomber ma religion.
Qu'est-ce que l'imam a à dire
face à ça?
Voilà encore une fois. Le devoir de l'imam et même à travers l'imam la religion, un domaine où on n'a pas à se mêler, c'est-à-dire que ça relève de la vie privée des gens, où est-ce que l'islam et la religion ne se mêlent pas. Et je voudrais prendre exemple de ce que vient de me dire ma sœur Majda, c'est qu'il existe énormément de domaines dans la vie où la religion n'a pas à se mêler et qu'il ne faut pas mettre la religion à toutes les sauces. Au moins, ça relève des affinités, des sentiments, des préférences qui sont liées aux goûts et aux couleurs. Et comme dit l'expression, les goûts et les couleurs...
Ça se discute pas.
Ça se discute pas, c'est tout. Si elle aime bien les Français blancs, blonds, aux yeux bleus, bah, tant mieux pour elle.
Il y en a qui aiment bien les gens un peu bruns.
Il y en a qui aiment des hommes plus basanés.
C'est les Suédois. En fait, elle cherche des Suédois musulmans.
Ah bah là, je pense qu'elle doit aller en Suède, d'avoir trouvé plus là-bas qu'en France. Si tu veux un Suédois, il faut aller en Suède.
Non, mais je suis Stockholm. Française, hein, donc. Je cherche un Français,
non, mais allez, je suis à Stockholm, voilà. Il y en a beaucoup, hein. Tu vas à Stockholm.
Physiquement, c'est un blond aux yeux bleus que vous cherchez?
Oui, j'aime pas les bruns. Généralement, je vais pas le cacher. C'est vrai que j'aime pas les... Non, c'est des cheveux blonds. Des cheveux blancs avec des yeux clairs, peu importe.
Il faut mieux.
Bleu, ouais. C'est pour ça que je dis, Philippe, il est beau. Et moi, franchement, c'est mon genre, Philippe. J'imagine qu'il est marié et qu'il a des enfants.
Je crois que je vais prendre à témoin tous les auditeurs de BFM en cette journée bénie des fêtes de fin d'année 2018, Philippe. Hein.
Mais en fait, j'ai un bonnet. On ne connaît pas ma couleur de cheveux, en fait.
Non, on les voit derrière.
On les voit un petit peu. Ils sont déjà grisillants.
J'ai pas fixé, je vous jure, j'ai pas fixé.
D'après ce que je sais, c'est Philippe est un homme déjà engagé. Donc,
oui.
Donc il est fidèle.
C'est pour ça que je dis, on va le mettre de côté.
T'en sais plus que moi, Fatima. Non, à la coulée hal. Moi, je ne répondrai rien à cela, puisque je répète.
Il devient rouge.
Nous n'avons pas à nous mêler des affinités, des goûts, des couleurs, des choix, des préférences des uns et des autres. Cela, on n'a pas imposé. Par exemple, quand le prophète, il aimait bien le qamis blanc. Porter, ça ne veut pas dire que tout le monde doit porter des qamis blancs,
oui,
ou qu'il aimait
oui.
tel ou tel doba. Par exemple, le fait qu'il adorait manger du potiron. Et la citrouille là, le gara, l'arabie le gara. En arabe littéraire, on dit dubba. Dubba, c'est le gara. Il aimait ça. Comme on dit en arabe. En dialecte, on dit le gara, le gara. Non, c'est de l'arabe littéraire, le gara. Oui. Donc, ce potion, il aimait bien ça. Est-ce que tout le monde doit aimer le qara? Parce que le prophète, il aimait le qara.
Il y a
ce qu'on appelle les actes humains du prophète. Et il y a les actes liés à la révélation. Je citerai un exemple d'un hadith qui est rapporté par Muslim. On a quelques instants, non encore.
Mais alors, rapide. Quand on vous dit qu'il faut s'arrêter, c'est pas rallonger.
Le prophète dit dans un hadith que j'ai trouvé assez étonnant, ce hadith-là, mais qui est totalement contextuel, où le prophète qui dit une maison où il n'y a pas des dates, ses habitants sont des affamés. Hum qawmun jiyaa. Baytun ma fi. Hadith sahih rawahu Muslim. Un hadith rapporté par Muslim, il dit que les maisons, mais attendez, les millions de maisons où il n'y a pas de dattes parce qu'on ne cultive pas les dattes, ce sont quand même des familles et affamées. Non, c'est simplement des propos humains émanant du prophète qui vivait dans un contexte et il vivait à Médine où il disait qu'à Médine, vu qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de dattes, eh bien, ceux qui ne mangent pas de dattes chez eux à Médine, alors que c'est la ville des dattes, eh bien, ils sont affamés. Donc, il faut pas généraliser tous les propos du prophète pour en faire une généralité.
Bon, Majda, vous avez encore une question. Eh bien, vous appellerez l'imam Abdelali parce que le temps qui nous est imparti est maintenant terminé. Et il y a beaucoup de questions. Merci, imam Abdelali. À jeudi prochain. Majda, c'était un plaisir de vous accueillir sur Beurre FM. À très bientôt.
Tout le plaisir est pour moi.
Et demain, c'est le maître Serhan. Maître Serhan qui sera avec vous.
Inch'Allah.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.